La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Philosophie spéculative et philosophie pratique sont inséparables. En effet, pour être bien éduqué, il faut avoir une bonne finalité. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme est un être fait pour la civilisation. La nature de l'homme est d'être civilisé. L'éducation est donc centrale. C'est ce que rappelle Jacques Maritain dans « Pour une philosophie de l'éducation » qu'il écrit alors qu'il est ici à Toulouse, petit frère de Foucault, ou du moins qu'il partage la vie des petits frères de Foucault. Et il peut donner finalement, après avoir pointé quelques erreurs, là en particulier l'oubli des fins de l'éducation, il peut donner une définition de l'éducation que voici. Qu'est-ce que l'éducation ? C'est de guider l'homme dans le développement dynamique au cours duquel il se forme en tant que personne humaine. Pourvu des âmes de la connaissance, de la force de jugement et des vertus morales. Tandis que, en même temps, lui parvient l'héritage spirituel de la nation et de la civilisation auquel il appartient et que se trouve ainsi conservé le patrimoine séculaire des générations. L'aspect utilitaire de l'éducation, selon qu'elle met l'enfant en état d'exercer plus tard un métier et de gagner sa vie, ne doit certes pas être dédaigné, car les enfants d'hommes ne sont pas faits pour une vie de loisirs aristocratiques. Mais le meilleur moyen d'obtenir ce résultat pratique est de développer les capacités humaines dans leur ampleur. Et les études spécialisées qui pourront être requises ultérieurement ne devront jamais mettre en péril le but essentiel de l'éducation. Ce but essentiel de l'éducation, c'est bien l'acquisition de la liberté, puisque la personne humaine se définit prioritairement par cet exercice de la liberté. Avec un peu d'humour, Maritain en a souvent, Maritain va décrire finalement la contre-éducation qui reposerait sur la technologie, la technocratie, voire sur un exercice trop précoce de la spécialisation. Le culte de la spécialisation déshumanise la vie humaine. Si nous rappelons que l'animal est un spécialiste, et un spécialiste parfait, tout son pouvoir de connaître étant fixé sur une certaine tâche particulière à exécuter, nous devons conclure qu'un programme d'éducation qui ne viserait qu'à former des spécialistes toujours plus parfaits en des domaines toujours plus spécialisés conduirait, à vrai dire, à une animalisation progressive de l'esprit et de la vie humaine. L'éducation deviendrait le processus de différenciation des abeilles dans la ruche humaine. L'ingéniosité de l'homme fortifiée par une éducation qui libère et élargit l'esprit est de plus grande importance que la spécialisation technique. Nous ne sommes pas des fourmis ou des abeilles améliorées. Nous ne pouvons pas faire mieux qu'elles en termes d'efficacité. Et si nous risquons à jouer aux abeilles ou aux fourmis, nous perdons notre qualité d'homme. Et le culte de la technocratie, déjà dans les années 68-69, est très inquiétant pour Maritain, qui écrit justement dans les dangers de l'éducation ou dans les fautes à ne pas commettre, cette fascination pour la technocratie. La technologie est bonne, écrit-il, comme un moyen pour l'esprit humain et pour des fins humaines, mais la technocratie, c'est-à-dire la technologie comprise et révérée de telle sorte qu'elle exclut toute sagesse supérieure et toute application à comprendre autre chose que les phénomènes calculables, ne laissa rien d'autre dans la vie humaine que les relations de force. N'oublions pas, on sort de la Deuxième Guerre mondiale. Ou pour le mieux, celle de plaisir, et débouche nécessairement dans une philosophie de la domination. Une société technocratique n'est rien d'autre qu'une société totalitaire. Mais une société technologique peut être démocratique, pourvu qu'elle soit vivifiée par une inspiration supra-technologique et qu'elle reconnaisse avec Bergson que le monde, plus grand aujourd'hui, a besoin d'un supplément d'âme et que la mécanique appelle la mystique, pour reprendre le mot de Bergson. Alors, comment articuler cette vision haute de l'homme ? Maritain le décrit à partir d'Aristote et de l'Évangile. Quelle est la forme la plus essentielle du désir de l'homme ? C'est le désir de la liberté intérieure et spirituelle. En ce sens, la philosophie grecque, Aristote en particulier, voyait en l'indépendance que l'homme acquiert par l'intelligence et la sagesse la perfection de l'être humain. L'Évangile devait élever la perfection humaine à un niveau supérieur, un niveau vraiment divin, en affirmant qu'elle consiste en la perfection de l'amour, et comme dit saint Paul, en la liberté de ceux qui sont mus par l'Esprit divin. De toute manière, c'est par les activités que les philosophes appellent immanentes, parce qu'elles s'achèvent pour le parfaire en le sujet lui-même, qui les exerce, et parce qu'elles sont au-dedans de lui de suprêmes activités d'accomplissement et de surabondance interne, que la pleine liberté d'indépendance se conquiert. Ainsi, le premier but de l'éducation est la conquête de la liberté intérieure et spirituelle à atteindre par la personne individuelle ou, en d'autres termes, la libération de celle-ci par la connaissance et la sagesse, la bonne volonté et l'amour. Texte dense qui commence dans sa première moitié par une chronologie rapide, l'Antiquité et le christianisme. Je rappelle que pour Maritain, la philosophie change d'état, non de nature, par l'ère chrétienne. Donc c'est important, c'est comme l'eau, si vous voulez, elle passe d'un état liquide, un état gazeux, un état peut-être de glace en hiver, mais elle ne change pas de nature. Il en est de même pour la philosophie, pour Maritain, et c'est très important, parce que souvent on dit aux Maritains ou saint Thomas d'Aquin ont rebaptisé Aristote. Absurde, complètement absurde, parce que la vérité ne peut pas lutter contre elle-même. Ce qui est vrai, ce qui est commun à l'homme, est déjà là. Donc Maritain préfère la notion de vérité cachée, ou de vérité pas tout à fait accomplie, qui va être accomplie par le christianisme, par l'incarnation du Verbe. Et on voit ici que dans la deuxième partie du texte est articulée la notion de liberté intérieure autour de la personne et de l'individu. La personne renvoie à l'unicité de l'homme et l'individu à son inscription dans la société. Mais comme dit Maritain, on ne peut pas séparer individu et personne. L'individu va se réaliser par la personne et vice-versa. Nous reviendrons juste après la plage musicale de Frescobaldi. C'est tiré des Fiori Musicalis, ce sont des pièces d'orgue absolument splendides qui viennent illustrer des versets liturgiques.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Personne et individu sont absolument indissociables et il faut revenir en arrière. Dans un texte publié en 1947, La personne et le bien commun, où Maritain écrit ceci. En tuant l'individu, on tue aussi la personne. Tous deux sont liés. Ce qui importe principalement pour l'éducation et le progrès de l'être humain dans l'ordre moral et spirituel, c'est le principe intérieur, c'est-à-dire ici la nature et la grâce. Alors revenons sur cette notion de nature et de grâce abordée la semaine dernière. Pour Maritain, la société est naturelle. Elle est naturelle à l'homme en un sens qui ne se rapporte pas seulement à sa nature animale ou instinctive, mais à sa nature humaine, c'est-à-dire à la raison et à la liberté. Maritain écrit dans « Pour une philosophie de l'éducation » Si l'homme est un animal naturellement politique, cela signifie que la société exigée par la nature s'accomplit par le libre consentement est que la personne humaine demande les communications de la vie sociale en raison de l'ouverture et de la générosité propre à l'intelligence et à l'amour, comme en raison des besoins d'un individu qui naît dépourvu de tout. C'est ainsi que la vie sociale tend à émanciper l'homme des servitudes de la nature matérielle. Elle subordonne l'individu au bien commun, mais en telle sorte que le bien commun se reverse sur les personnes individuelles et que celles-ci jouissent de cette liberté d'expansion ou d'indépendance qu'assurent les garanties économiques du travail et de la propriété, les droits politiques, les vertus civiques et la culture de l'esprit. On comprend pourquoi l'éducation doit avoir pour fin la vocation de l'homme ou sa finalité ultime qui est de voir Dieu en régime chrétien. Parce que l'éducation va permettre cette reversion du bien commun. Mais si on n'a pas cette finalité haute et qu'on tend au pragmatisme, au sociétisme, au volontarisme, comme dit Maritain, ou à la spécification trop précoce, on va faire de l'homme une fourmi ou une abeille qui ne peut pas être. Et on perd tout. On perd cette reversion du bien commun, on perd cette capacité d'être à la fois personne et individu, et on a une société qui n'est plus une société. On a finalement un effritement de tout ce qui fait que l'homme est lié à son prochain, à son frère, et qu'il peut être lui-même dans ses potentialités que donne l'éducation bien conçue, adéquatement prise, selon la formule de Jacques Maritain. Dès lors, Jacques Maritain en arrive à montrer que plan pratique et plan spéculatif sont étroitement liés et qu'il y a un mal métaphysique dans une mauvaise éducation. Et ce mal métaphysique, il va l'analyser à partir des événements de mai 68. Voici ce qu'il écrit. Le mal métaphysique, même si l'on n'est pas armé pour en prendre conscience, se fait sentir dans les profondeurs de l'esprit et touche plus cruellement les jeunes parce qu'ils ne se sont pas encore endurcis et ne se mentent pas à eux-mêmes. Je veux dire, le vide, le néant complet de toute valeur absolue et de toute foi en la vérité dans lequel la jeunesse est placée par l'intelligentsia régnante et par une éducation scolaire et universitaire qui, prise en gros et malgré bien des exceptions individuelles, trahit sa mission essentielle. La jeunesse contemporaine a été systématiquement privée de toute raison de vivre. Et c'est là un crime spirituel plus grave, certes, que bien des sottises. Les mots sont directs, francs, il n'y a pas de double fond. Maritain va droit au but et voit dans mai 68 une crise du mal métaphysique. Je relis, la jeunesse contemporaine a été systématiquement privée de toute raison de vivre. Voilà où conduit une éducation qui rate sa cible, c'est-à-dire qui confond les moyens et la fin et qui oublie d'être associée en permanence au plan spéculatif, c'est-à-dire à l'exercice de l'intelligence qui doit chercher à connaître l'être. Parmi d'autres erreurs pointées par Jacques Maritain, il y a le sociologisme, je ne vais pas m'y arrêter, le volontarisme et puis le pragmatisme. Je vais terminer sur d'autres textes, c'est-à-dire que dans le recueil pour une philosophie de l'éducation, on a une compilation de textes édités à différentes époques. Et je vais conclure sur un texte majeur qui décrit ce qu'est le principe intérieur. S'il est vrai que le principe intérieur, c'est-à-dire la nature et la grâce aussi, car l'homme n'est pas un être simplement naturel, est ce qui importe le plus dans l'éducation, il s'ensuit que tout l'art consiste à instruire, inspirer, discipliner et émonder, à enseigner et éclairer de telle sorte que dans l'intimité des activités de l'homme, le poids des tendances égoïstes diminue et que grandisse, au contraire, celui des aspirations propres à la personnalité et à sa générosité spirituelle. Je dois ajouter que l'expression même de perfection personnelle que j'ai employée tout à l'heure a besoin d'être exactement entendue. La perfection de l'homme consiste en la perfection de l'amour. Et ainsi, elle est moins la perfection de la personne que celle de son amour, où le soi est en quelque façon perdu de vue. Et avancer dans cette perfection personnelle, ce n'est pas copier un idéal. C'est vous laisser conduire par un autre, là où vous ne voulez pas aller, et laisser l'amour divin, qui appelle chacun par son nom, vous modeler et faire de vous une personne, un original, non une copie. On le voit ici, cette expropriation de soi, je reprends cette expression à la dernière partie des degrés du savoir, où Maritain, commentant Jean de la Croix, dit que l'expropriation de soi est la perfection de l'amour. Ce sont des pages essentielles pour comprendre comment il y a une autre manière de connaître qui est la mystique. Il n'y a pas que l'intelligence conceptuelle pour accéder à cette connaissance de l'être. Ici, l'expropriation permet dans l'éducation, expropriation de soi, de donner la perfection de l'intériorité, c'est-à-dire de rejoindre l'amour et dans la relation de l'enseignant à l'enseigné, du maître à son disciple, pour être plus juste, car concevoir l'enseignement à partir des mots enseignant-enseigné, c'est minorer l'enseignement. La relation de maître à disciple, elle est là pour éduquer, conduire hors de soi la personne par cette valeur de l'intériorité et par cet appel à l'intériorisation. Comment ? Eh bien, par l'attention donnée au travail. Plusieurs éducateurs rejoignent ce sens de l'intériorisation, de l'attention et du silence intérieur, de cette concentration. Pour certains, traduire une version en russe ou en latin, c'est déjà presque une forme de prière. Maritain insistera sur cette attention à l'intériorité et cette relation qui doit laisser le disciple, l'élève, croître dans toutes ses potentialités uniques. Et c'est à cette condition que la société pourra être véritablement appelée une société.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Appel à l'intériorité. On le voit, Maritain va s'opposer à ce qu'on appelle la production d'un type dans l'éducation. Je reprends quelques phrases de Maritain pour resituer la perspective dans laquelle il conçoit l'éducation. En réalité, la personnalité signifie intériorité à soi-même. Ce royaume de l'autonomie internelle, admirez, c'est un mot emprunté à Peggy, grandit dans la mesure où la vie de la raison et de la liberté domine sur celle de l'instinct et des désirs des sens, ce qui implique sacrifice de soi, effort vers la perfection personnelle et vers l'amour. Mais l'individualité au strict sens aristotélicien, dans lequel j'emploie ce mot, l'individualité signifie l'ego matériel, dont le déploiement consiste à donner libre cours aux poussées irrationnelles qui l'habitent. Alors, tout en se faisant le centre de tout, l'ego se disperse en réalité parmi de pauvres désirs ou des passions irrésistibles et se soumet finalement au déterminisme de la matière. Pour sortir du déterminisme de la matière, il faut déjà sortir de la notion finalement d'un type d'élève éduqué. Et là, Maritain va s'opposer à une lecture de Platon. La philosophie éducationnelle de la production du type s'apparente naturellement aux idées que Platon propose dans ses lois. Pour Platon, le type doit être produit en vertu d'une musique qu'il appartient à l'État d'imposer à l'éducation. Les États modernes, surtout ceux qui sont en formation, avec la dépendance où ils sont des masses et de l'opinion publique et leur besoin impérieux de créer d'urgence l'unité et l'unanimité, regarderont une telle philosophie éducationnelle avec une complaisance particulière. L'État se hâterait de fabriquer en hâte le type adapté aux besoins immédiats du pouvoir politique. L'essence et la liberté de l'éducation seraient ruinées à la fois. Une telle manière de produire le type ne peut réussir que moyennant cette perversion de l'État politique qu'est l'État totalitaire, qui se regarde lui-même comme libre de la justice et comme la règle suprême du bien et du mal. Au contraire, dans un État démocratique, cette méthode éducationnelle ne conduirait qu'à une parfaite déception. Si l'incidence de l'État sur l'éducation était comprise de cette manière, nous aurions à défendre l'éducation contre l'État. C'est très important de garder à l'esprit la finalité de l'éducation. Maritain, reprenant donc cette intériorité selon Aristote, la dépasse par l'apport du christianisme. Voici comment il conclut sur cette question. J'ai insisté sur le fait que l'éducation doit être centrée sur le développement et la libération de la personne individuelle. Ce que je critique, c'est cette forme erronée d'appréciation de la personne individuelle qui, ayant en vue l'individualité au lieu de la personnalité, réduit l'éducation et le progrès de l'homme à la simple libération de l'ego matériel. Donc on reste soumis à la matière. Il faut passer à la dimension de l'amour, donc de l'expropriation du soi, pour trouver le véritable homme. Les éducateurs qui tombent dans cette erreur s'imaginent qu'ils apportent à l'homme la liberté d'expansion et d'autonomie à laquelle la personne aspire, tandis qu'ils nient en même temps la valeur de toute discipline et de toute assaise, comme la nécessité de faire effort vers la perfection personnelle. Le résultat, c'est qu'au lieu de s'accomplir lui-même, l'homme se disperse et se désintègre. Vision forte de l'éducation qui va rejoindre une allocution qui est prononcée en 1940 à propos des cérémonies d'intronisation du 5e président d'un collège américain à New York. Pour ceux qui le souhaitent, faites un petit pèlerinage sur les traces de Jacques Maritain aux États-Unis, à commencer par la 5e avenue où il a résidé dans plusieurs endroits différents, toujours assez proche de la grande bibliothèque, et puis surtout à Princeton. Il faut imaginer le campus de Princeton arboré avec différents édifices splendides, une église qui a la dimension d'une cathédrale dans un néo-gothique à l'américaine, une bibliothèque hors du commun, un musée dans lequel on peut voir des Cézanne, des Van Gogh, des primitifs jusqu'au XXe siècle. Et Maritain habitait à quelques rues de là. La maison des Maritains est à la gloire de la Trinité avec finalement le chiffre 3 dans la façade. Et on peut imaginer Maritain faisant le trajet à pied pour aller à Princeton et déjà habité par ce genre de lignes que je vous soumets pour conclure. Le but premier des écoles, des collèges, des universités, de l'éducation en général, n'est pas de nous enseigner comment faire quelque chose, mais plutôt d'abord de nous munir des moyens et spécialement du savoir qui nous rendent capables d'apprendre comment être en accord avec toutes les qualités formatrices et les perfections durables de l'âme et de l'esprit.